L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdril.
Nous voulons avoir les yeux ouverts sur ce qui nous entoure. Nous prions afin que nos yeux puissent s'ouvrir et voir comme toi tu vois. Quand tu as vu la foule, tu étais ému de compassion. Tu as vu qu'elles étaient comme des brebis faibles, seules, abattues. Seigneur, je te demande, fais dans ma vie, fais dans nos vies, ce travail dans mon cœur, dans nos cœurs, de voir les autres comme toi tu les vois. Père, des fois dans la prière et dans nos vies, on est tellement égoïste. On est centré sur nous et sur nos besoins. Alors qu'il y a tellement de gens, une foule autour de nous, qui attend qu'on s'intéresse à eux, qui attend ton toucher. Père, je te le demande, ouvre encore nos yeux. Illumine les yeux de nos cœurs.
Oui, Père.
Pour qu'on puisse voir comme toi tu vois. Qu'on puisse être de plus en plus semblable à toi. Merci pour la croissance. Merci pour la grâce. Merci parce que tu nous as pas donné un esprit de condamnation, de culpabilité. Pour qu'on se sente toujours mal et toujours mauvais. Non, tu nous as justifiés, tu nous as pardonnés, tu nous as lavés pour qu'on puisse être tes serviteurs. La parole déclare, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Je veux être cette flamme de feu. Je veux l'être pour ma vie, pour ceux qui sont autour de moi. Je veux l'être dans cette génération. Je veux, Seigneur, que mes bien-aimés puissent l'être, que nous puissions ensemble être ces flammes de feu qui enflamme, qui fait du bien, qui amène ta gloire, qui amène ta puissance autour de nous. Et pour cela, Père, on a besoin de voir. On a besoin de voir pour ne pas faire de bêtises. On a besoin de voir pour comprendre. On a besoin de voir pour que nos pensées soient changées. Quand on voit, Seigneur, quand tu nous ouvres les yeux, on comprend. Quand tu nous ouvres les yeux, on réalise. On réalise.
Oui, Père.
On réalise derrière les apparences, les cœurs, les besoins. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas vu, je n'ai pas compris, je n'ai pas réalisé. Je suis passé, j'ai fait passer ma vie avant celle des autres et avant ta volonté. Alors je suis passé tellement de fois à côté des gens sans même me poser la question comment ils vont, qu'est-ce qu'ils traversent, qu'est-ce que Dieu aurait à dire dans leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux aujourd'hui. Élargis notre vision. Élargis notre perception. Merci Saint-Esprit pour ton ministère. Parce que oui, tu exerces un ministère dans nos vies. Et je crois qu'aujourd'hui, tu fais une œuvre dans nos cœurs. On vient devant toi avec humilité.
Oui, Père.
Vraiment. On ne croit pas qu'on a tout compris. On ne croit pas qu'on a l'expérience suffisante ou je ne sais quoi. Seigneur, on n'a rien sans toi. On vient devant toi comme des enfants. Fais ce que tu veux.
Oui, Père.
De nous. Ouvre nos yeux seulement afin qu'on puisse voir comme toi tu vois. Et merci ensuite parce que tu nous donnes ta parole. Et on peut être une bénédiction. Merci, Seigneur. Nous t'aimons. Quand cette journée, que demain, cette semaine, nous puissions voir comme toi tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans cette émission. On est heureux de vous retrouver avec notre invité Yanis Gauthier. Merci d'être là, Yanis.
Merci.
Et aujourd'hui, on va parler de cette prière qui nous donne la puissance, la prière est une puissance qui élargit la vision. Tu vas nous en parler dans un instant. Et ce matin, dans ma méditation quotidienne, je suis tombé sur ce passage dans Deux Rois au chapitre 6. Je me suis dit, c'est drôle parce que Élisée, à un moment, des gens vont venir vers lui et il va prier Dieu, il va demander à Dieu, frappe-les d'aveuglement. C'était des ennemis et Dieu a répondu à sa prière et ils ont été frappés d'aveuglement. Et au contraire, juste avant, il prie pour son serviteur. Il est écrit, Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » On a besoin de voir. On a besoin de voir. Ça fait du bien quand on est repris, quand on est corrigé par Dieu, quand on est sensibilisé par Dieu et qui nous montre qui on est. Et quand on voit ça, quand on lit sa parole, on sait que c'est comme un miroir. Et il nous dit, mais arrête-toi un peu et vois, regarde. On est tellement à fond des fois qu'on a besoin de s'arrêter et de voir. Et il prie cela, il dit, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Et c'est extraordinaire parce qu'entre cette prière et le moment où Dieu va agir, et apparemment, il se passe qu'un instant, il est écrit, l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, je vous assure, et c'est certain, ça a changé sa façon de voir les choses. Il était là, il avait peur, et quand il a vu, comme Dieu voyait, ça a tout changé. Et on a des fois dans nos pensées, par rapport à nos vies, nos circonstances, et le ministère, le service, le travail, les relations, on a toutes sortes de choses, de raisonnements qui sont là à cause du vécu, de l'expérience. Et des fois, on a vraiment besoin de Seigneur, comme une page blanche. Montre-moi comment toi tu vois. Et je prie que cela, vraiment, soit notre partage et que Dieu nous ouvre les yeux dans quel que soit le domaine de nos vies. Alors, Yannis, aujourd'hui, tu avais à cœur de partager justement sur cette puissance de la prière qui élargit la vision. Comment ça se passe et quel est le but?
Oui, c'est bien d'associer la prière et la vision, parce que la vision de Dieu ne se reçoit pas en regardant la télévision. C'est dans la prière que Dieu vraiment élargit notre vision. C'est dans la prière que Dieu nous revêt de sa puissance. C'est dans la prière qu'il met ses plans et ses projets dans notre cœur. C'est dans la prière que nous apprenons à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et on vit dans un monde qui est profondément centré sur lui-même. Et quelqu'un a dit que l'arme la plus cruelle du 21e siècle, c'est l'indifférence. L'indifférence. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être indifférent à ce qui touche le cœur de Dieu. Et en l'occurrence, ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas une cathédrale en cristal avec des fauteuils en cuir. Non, la seule raison qui déclenche une fête dans le royaume de Dieu, c'est lorsqu'un pécheur revient à la maison, lorsqu'il se repent et se tourne vers lui. Ça, c'est le souhait de Dieu. Je me souviens, un jour, j'étais dans le train, je partais en mission, et puis tout à coup, le train s'arrête. Et puis le conducteur nous dit, voilà, nous sommes à l'arrêt parce que il y a quelqu'un qui vient de se jeter sur les rails. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vis une telle tragédie. Et on est à l'arrêt, on attend les secours, et tout à coup, il y a le contrôleur qui fait son apparition, et il est pris à partie. Tout le monde est en colère, pas parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, non, parce qu'ils ont une correspondance, parce qu'ils vont être en retard à leur travail, etc. Et là, je me dis, mais quelle indifférence! Il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui avait une famille, il y a quelqu'un qui avait un problème. Et pour mettre fin à sa souffrance, eh bien, il s'est donné la mort. Lorsque je rentre à Paris, je fais part de cette situation à quelqu'un qui travaille également dans le réseau parisien au niveau du train. Il me dit, tu sais Yannis, ça m'est arrivé cette histoire. Et alors que j'étais à l'arrêt et j'attendais les secours, il y a une dame qui est venue me voir et elle m'a dit qu'elle allait être en retard à son rendez-vous. Et là, mon collègue m'a dit, je lui ai rétorqué que eh bien, j'attendais les pompiers, que je ne pouvais rien faire d'autre. Et elle m'a dit, elle lui a dit en fait, mais vous pouvez avancer, il est mort, ça ne changera rien. Et là, mon collègue pasteur l'a regardé et lui a dit, mais si c'était votre enfant qui était là sous le train, est-ce que vous me demanderiez d'avancer? Est-ce que vous me demanderiez d'avancer? Aujourd'hui, il est important de comprendre et de saisir la vision de Dieu pour notre temps présent et de ne pas être indifférent à ce que Dieu souhaite, à ce que Dieu veut. Et pour ce faire, j'ai choisi un petit peu le texte d'Ézéchiel 37, versets 1 à 6, où il est question d'une vallée d'ossements desséchés. C'est le peuple d'Israël qui est complètement sec, complètement mort spirituellement. Et Dieu va poser une question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je crois que le monde est un cimetière à ciel ouvert. Je dis souvent à chacun sa vallée, à chacun son cimetière, à chacun ses combats, mais la réalité, c'est que notre monde, on pourra aller loin là-dessus, c'est que notre monde est un cimetière à ciel ouvert où les gens sont morts, quoique vivants. Et Dieu nous pose une question aujourd'hui, maintenant. Est-ce que je suis capable d'apporter la vie là où il y a la mort? Parce qu'il y a la mort. Il y a la mort, les gens se meurent. Encore une fois, j'étais à la gare, dans le train, il m'arrive plein de choses quand je suis en mission. Je suis assis dans le TGV, tout à coup, il y a une alerte. Sortez, sortez, sortez du train. On ne sait pas pourquoi, mais tout le monde commence à courir. Ils nous disent même de laisser nos affaires. Et j'arrive sur l'entrée de la gare, sur le parvis, et sous mes yeux, j'ai deux jeunes filles qui viennent de se faire égorger par un acte, un terroriste. Il les a tuées, il les a égorgées. Elles sont là, sous mes yeux. Et je me dis, voilà, le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Au sein de ce monde, il est quand même question, bien sûr, de regarder la réalité. Oui, tout est sec, tout est mort. Mais Dieu pose une question à Ézéchiel. Est-ce que je suis capable d'apporter la ville où il y a la mort? Et j'aime tellement ce texte dans Matthieu 28, verset 19, où il est question que Jésus va dire à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là, à cet instant, Jésus est en train de donner une mission, une vision à ses disciples. Je n'étais pas né à cette époque. Tu étais né, toi?
Non.
Mais si j'avais été là, j'aurais peut-être dit au Seigneur, excuse-moi, mais comment on va faire? C'est vrai, tu nous dis de faire de toutes les nations des disciples, comment on va faire? On est à Jérusalem, comment on va faire pour aller aux États-Unis, au pôle Nord, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, à l'île Maurice? Comment on va faire? Il n'y a pas Internet, il n'y a pas EMCI, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de médias, mais comment on va faire? Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il y a... Comment on va faire? Jésus donne une vision à ses disciples, mais pour eux, c'est impossible. Il va leur donner la solution. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est important de saisir que seul le Saint-Esprit est capable de nous apporter la vision de Dieu pour aujourd'hui. Et parfois, la vision de Dieu, on ne peut pas la saisir. Pourquoi? Parce que des fois, elle nous dépasse ou des fois, on n'a même pas envie de la saisir. Parce que notre vision est simplement centrée sur nos intérêts. Aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, j'aime l'Église. Je suis né... à l'église, je veux mourir à l'église. Il y en a une chanteuse qui disait, je veux mourir sur scène. Moi, je veux mourir à l'église en prêchant l'évangile. Dieu me reprend. Et je dois te dire, Jérémy, que c'est vrai, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil à l'église. On passe du temps ensemble, on prie les uns pour les autres. Et à force de rester à l'église, j'ai perdu la vision de Dieu. J'étais centré sur moi-même. J'étais devenu obèse, une obésité spirituelle. L'église, c'était devenu un jacuzzi, un spa. Si, je me sens tellement bien. Oh, je vois des choses extraordinaires. Merci Seigneur, tu nous as accordé de l'argent pour acheter une télé, pour mettre en place les médias. Merci parce que tu as répondu à ces besoins. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Oh, il y a une bonne parole, je me suis fait du bien aujourd'hui. Le pasteur, il a bien prêché. Moi. Toute la semaine, c'est les chrétiens. J'appelle les chrétiens. Oh, mon frère prie pour moi. En fait, ma vie, elle est dans l'église. Et puis un jour... Dieu me conduit dans une mission d'évangélisation et je parcours les rues et je vois des filles qui se prostituent derrière des vitres. Je vois des gars qui sont en train de se défoncer la tête dans des quartiers, dans des cités. Je vois des gens de mauvaise vie. Mais je dis à Dieu, mais pourquoi tu m'amènes là? Mes yeux sont purs, ils sont faits pour voir ta gloire. Mes mains sont sanctifiées, mes pieds aussi. Je ne peux pas aller dans cette vallée. Moi, ma place, c'est à l'église, là où règne ta présence. Et le Seigneur me dit, tu vas rester ici parce que je veux simplement te rappeler ce que tu as oublié. Simplement te rappeler ce que tu as oublié. Jérémy, à partir de là, ce bocal, cette zone de confort dans laquelle je m'étais installé, je l'ai brisé, je l'ai détruit, je n'en veux plus. Et je suis entré dans la vision de Dieu. Et aujourd'hui, je fais face à un monde qui est dans le déclin et je fais face aussi à des gens qui ont besoin de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer maintenant. C'est pas la peine de se poser trop de questions. On peut toujours absorber les mines et une stratégie pour une évangélisation efficace. Mais si tu passes pas du temps dans la présence de Dieu, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit investir dans ta vie, te revêtir de sa puissance, tu peux toujours parler, ça ne sert à rien. Seul le Saint-Esprit est capable de toucher les cœurs, de changer les vies, de révolutionner une personne. Jésus-Christ a dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre ». Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui prêchent l'Évangile. Il y a une conversion. Merci Seigneur pour la conversion. Et puis après, ils vont et disent « Seigneur, selon ta parole, je suis un évangéliste, envoie-moi au pôle Nord. » Mon frère, avant de demander à Dieu de t'envoyer aux États-Unis, commence déjà à dépasser l'extrémité de la terre de ton cœur. Ça, c'est le minimum. Et c'est quoi l'extrémité de la terre de ton cœur ? Ça peut être ce religieux, ce barbu à qui tu n'as pas envie de parler. Tellement il te rebute, il te répugne. Ça peut être les mecs qui sont en train de vendre de la drogue, les alcooliques en bas là, dans ta cité que tu croises tous les jours. Ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue de travail. Ça peut même être un membre de ta famille. En fait, c'est la personne qui te coûte quelque chose, qui te demande un effort, qui doit t'amener à dépasser tes limites, mais ces limites, tu ne veux pas les franchir. Parce que ça te coûte quelque chose, tu te mets en avant, tu as l'impression d'être livré. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut. On prie, Seigneur, fais des miracles, fais des signes, fais des prodiges. Et puis, dans nos églises, on dit, mais Seigneur, il ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas au chômage. Mais je vais te dire quelque chose, Jérémy. Quand tu vas dans la vallée, là, où il y a des morts, des blessés, là où le combat fait rage, là où l'ennemi détruit et égorge, et tu commences à proclamer le message de l'Évangile. Tu vois Dieu venir ratifier, confirmer la parole de l'Évangile par des signes, par des miracles et par des prodiges. Je me souviens d'une fois, j'étais en prison et je prêche l'Évangile. Et à la fin, il y a quelqu'un qui se lève et il dit « Je suis arrière-petit-fils de sorcier. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais destiné à servir les puissances occultes à un tel point que il y a quelques mois en arrière, mon épouse et moi, nous avons décidé d'offrir notre bébé en sacrifice vivant au diable. Nous avons enterré notre enfant sur la plage. Un chien a reniflé son odeur, l'a déterré. L'enfant n'était pas mort. C'est pour ça que je suis en prison. Et il dit, mais monsieur le pasteur, je dois vous dire que, alors que vous étiez en train de prêcher l'Évangile, j'ai senti quelque chose venir parler à mon cœur. En fait, j'ai senti Dieu venir m'interpeller, me parler, me convaincre qu'il avait des plans et des projets pour moi, que je n'étais pas destiné à être l'esclave du diable, qu'il voulait m'affranchir de cette réalité et me sauver. Alors, je vais lui donner ma vie. Il y a tellement de belles choses, tellement de grandes choses, tellement d'actions divines qui se passent, qui se manifestent lorsque nous entrons dans la vision de Dieu. Alors, Dieu pose une question à Ézéchiel. Est-ce que je suis capable ? Ézéchiel, il aurait pu évaluer. C'est pas la peine. Et ils sont tous morts. Il n'y a plus rien à faire. Au lieu de chercher de manière rationnelle à évaluer l'action de Dieu, il dit à Dieu, mais tu le sais. Tu le sais. Alors Dieu lui dit, prophétise sur ses eaux. Proclame la vie là où il y a la mort. Et vous dire, mes amis, qu'aujourd'hui, nous sommes sur la terre pour accomplir une mission. Pas question de rester assis sur notre canapé à chauffer les chaises de l'église. Dieu ne cherche pas des ventilateurs spirituels. Dieu cherche des acteurs de son royaume. Ce que Dieu veut, c'est des gens qui se lèvent, c'est une armée qui s'engage. Dieu ne sponsorise pas les déserteurs. Dieu veut des combattants, des soldats. C'est bien beau de proclamer l'Évangile dans l'Église, mais c'est encore mieux de l'annoncer dans les ténèbres. Oui, c'est là que nous devons apporter la lumière. C'est là que Dieu brille dans les cœurs. C'est là que Dieu change et transforme les vies. Le combat spirituel, il fait partie intégrante de notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous lever comme un seul homme, à nous tenir à la brèche en faveur du pays, à proclamer la vie là où il y a la mort au sein de ce monde, où on voit tout un tas de choses, des guerres, des bruits de guerre, des actes terroristes, des choses terribles qui se passent sous nos yeux. Et c'est là, dans ce monde, dans ce décor, que nos enfants vont grandir Et on ne peut pas rester insensible à la volonté de Dieu. Dieu attend quelque chose aujourd'hui de nous, un mouvement vers l'avant. Il est temps, mes frères, de se lever. Il est temps de briser ce bocal dans lequel nous sommes enfermés, de réduire à néant cette zone de confort qui nous paraît tellement confortable, mais qui n'est pas et absolument pas de la volonté de Dieu. Ce que Dieu cherche, ce sont des acteurs de son royaume. Et je veux vraiment prier dans ce sens, pour que Dieu puisse réveiller notre pays, pour que Dieu puisse apporter un réveil riche, permanent. Je sais que peut-être là, t'es en train de te dire, mais moi, j'ai déjà mon combat chez moi. J'ai déjà mon combat avec mes enfants. J'ai déjà mon combat avec ma femme, avec mon mari. Je combats déjà dans la maladie, dans mes problèmes. Occupe-toi des affaires de Dieu et il va s'occuper de tes affaires. Occupe-toi des affaires de Dieu et il va s'occuper de tes affaires. Je me souviens de ce pasteur qui était âgé, malade, qui faisait des allers-retours à l'hôpital. Au moment de la prière, il se lève. Prie pas pour sa maladie. Non. Prie pas pour de manière égoïste. Il dit, Seigneur, donne-moi juste encore une heure. Juste encore une heure pour parler de toi à une personne. Pour parler de toi à une personne. Donne-moi juste encore une heure. Je voudrais vous dire, mes amis, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes au service de Dieu. Alors, il serait peut-être temps de réévaluer notre vision. Hein? Il serait peut-être temps de laisser Dieu vraiment investir notre vie afin que nous puissions devenir comme ces hommes de la Bible que Dieu a utilisés pour changer leur génération. Dieu veut marquer notre génération aujourd'hui et avec nous. Et ça nécessite une vision qui n'est pas humaine, qui n'est pas centrée sur nous, mais une vision qui vient de Dieu et qui est divine. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je terminerai avec cette parole qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 12, où Jésus-Christ lui-même va dire « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir une personne donner sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est le miracle de la vie. »
Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu voudrais prier par rapport à...
Seigneur, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que c'est bon d'être dérangé par ta parole. Oui, nous voulons que ta parole, Seigneur, nous bouscule aujourd'hui. Je prie pour que ta parole vienne impacter les cœurs des pasteurs, des leaders, de tous tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions nous réveiller, nous lever comme un seul homme pour annoncer tes merveilles, pour annoncer l'évangile, Seigneur, au sein de ce monde qui se meurt, à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous devons parler. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir été indifférent au son de ta voix. Pardon d'être resté dans notre zone de confort, assis, installé sur nos fauteuils en cuir. Pardon, Seigneur, de ne pas avoir pourvu aux besoins de ceux qui étaient dans la nécessité. Pardon de ne pas avoir parlé aux personnes qui nous répugnent, aux personnes qui ne nous ressemblent pas. Pardon de ne pas avoir imposé les mains, Seigneur, aux malades qui ne te connaissent pas. Pardon de ne pas avoir parlé, Seigneur, à celui qui nous faisait peur. Pardon d'avoir été terrorisé, Seigneur, par l'ennemi qui nous empêche et nous emmuse, Seigneur, à cause des circonstances dans lesquelles nous vivons. Seigneur, nous croyons que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force et de puissance, Seigneur. Nous voulons te dire, envoie-nous, Seigneur. Comme Ésaïe, Seigneur, envoie-nous. Prends nos mains, prends notre bouche, prends nos pieds pour descendre dans la vallée afin d'aller prier. Et nous croyons, Seigneur, comme tu le dis dans ta Bible, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Oui, il y aura des prodiges, des signes, des résurrections, des guérisons, des délivrances. Le royaume de Dieu va descendre sur la terre comme il est descendu hier, Seigneur. Merci parce que Tu n'es pas au chômage, Seigneur, tu n'es pas à la retraite, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans la vie de nos pères, nous croyons, Seigneur, que tu le fais dans notre vie, maintenant, dans le nom de Jésus, je t'ai prié.
Amen.
Amen.
Oui, Seigneur. Alléluia. Vous connaissez votre situation et votre vie par rapport à ce que vous avez entendu. Je vous encourage à faire une prière vraiment personnelle. En ce moment, je vais vous laisser prier. Plusieurs, vous écoutez ces émissions et des fois, vous les écoutez du début à la fin sans prier. C'est dommage. Je vais vous donner l'opportunité de prier avec vos mots. Vous avez entendu des choses, ça vous a rappelé forcément des choses dans vos vies. Que vous puissiez prier avec vos mots, selon ce que le Saint-Esprit a montré, et vous humilier devant lui. Demandez qu'il vous envoie et qu'il vous ouvre les yeux.
Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, fais-le. Saint-Esprit. Seigneur, envoie-nous, Seigneur. Transforme, change.
Envoie-nous, Seigneur.
Change nos pensées.
Envoie-nous.
Change nos pensées. Renouvelle notre intelligence.
Donne-nous la vision, Seigneur.
La compassion.
Vision du royaume. Vision de l'excellence.
Oui, Saint-Esprit.
Vision qui émane de ton cœur.
Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Remplis nos cœurs de toi, Seigneur.
C'est important, avant de conclure, de comprendre aussi que Dieu attend quelque chose de chacun. C'est trop facile de mettre la responsabilité de notre nonchalance sur les pasteurs, sur les leaders, et de croire que c'est toujours eux qui doivent tout faire. Le royaume de Dieu, eh bien, va s'étendre sur la terre au travers des enfants de Dieu. Dieu attend quelque chose de chacun. Et la marque même de la maturité spirituelle, c'est lorsqu'on commence à prendre notre responsabilité. J'assume ce que tu me demandes de faire. C'est bien d'accepter Jésus-Christ pour le salut, mais c'est aussi bien d'endosser la responsabilité qu'il y a derrière. Nous avons été sauvés pour être à son service. Dieu veut nous utiliser pour sauver d'autres personnes. C'est bien de dire « Je suis le sel de la terre, l'ambassadeur, la lumière de Dieu, une lettre ouverte ». Mais si c'est pour rester là sous une table, ça sert à quoi? Toutes ces qualificatifs qui émanent d'un enfant de Dieu doivent être mis en avant, haut et fort, par chacun d'entre nous, et pas simplement par une poignée de leaders.
Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous avons entendu la parole de Dieu. Cette parole, elle est claire, elle est comme une épée. Et elle vient séparer ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Elle vient débarrasser de l'égoïsme. Je vous prie vraiment que nous puissions être des gens qui n'oublient pas la parole, mais qui la mettent en pratique, au lieu de par des raisonnements qui sont faux, être empêchés d'obéir à la parole de Dieu.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et vos témoignages à prière@enseignemoi.com. Retrouvez toutes les émissions de Prières Inspirées sur emcitv.com.